Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ils ne baissent pas les bras. À Washington, les supporters de Donald Trump se sont réunis cet après-midi. Alors qu'au Congrès, les grands électeurs vont officialiser la victoire de Joe Biden. Donald Trump, en réalité, a appelé ses soutiens à se mobiliser pour empêcher la proclamation des résultats. Lui qui continue chaque jour de batailler contre ce scrutin volé, comme il dit. Un enregistrement fait scandale aux États-Unis. On y entend celui qui est encore le chef de la Maison-Blanche réclamer des voix pour obtenir une modification du résultat de la présidentielle en Géorgie, cet état clé où se déroule une autre élection cruciale pour décrocher la majorité au Sénat. Alors, jusqu'où compte aller Donald Trump? Quelles sont ses dernières armes? A-t-il eu vraiment l'intention de faire appel à l'armée quand 10 anciens secrétaires d'État à la Défense ont mis en garde récemment la Maison-Blanche dans une tribune? Trump, ses dernières cartouches, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Anne Desine, vous êtes juriste, politologue, spécialiste des États-Unis, vous êtes professeure honoraire à l'Université de Nanterre. Votre dernier livre, Les États-Unis et la démocratie, est publié, c'est le sujet, hein, aux éditions L'Harmattan. Avec nous ce soir, Sonia Dridi, vous êtes journaliste correspondante aux États-Unis pour plusieurs médias. Citons votre livre, Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, paru aux éditions du Rocher. Avec nous également, Soufiane Al-Sabbagh, vous êtes écrivain, politologue, enseignant en géopolitique à New York, où vous vous trouvez actuellement. Votre dernier livre, La nouvelle droite américaine, la radicalisation du parti républicain à l'ère du Tea Party, est paru aux éditions Demopolis. Et puis François Clemenceau va nous rejoindre dans un instant. Il est bloqué dans un embouteillage et on l'accueillera bien volontiers lorsqu'il va arriver. On va commencer avec vous, Sonia Dridi, pour expliquer ce qui est en train de se passer en ce moment même, devant le Capitole, à Washington. Ça ressemble quand même à un coup de force, à un énième coup de force des Trumpistes et de Donald Trump.
Oui, tout à fait. Et c'est Donald Trump qui a encouragé ses partisans à se réunir ce 6 janvier, alors que le Congrès doit certifier la victoire de Joe Biden. Et Donald Trump lui continue de dire qu'il y a eu de nombreuses fraudes, que c'est lui qui a remporté l'élection. Et on le sait, hein, la base électorale de Donald Trump est extrêmement solide. Elle est, quand on rencontre ses partisans à Washington, il y a une sorte vraiment de, on dirait en anglais dedication, mais ils sont complètement dédiés à la cause, hein, on a l'impression parfois d'être un peu dans une secte, et donc ils sont déjà des milliers à être réunis. Alors évidemment, on a beaucoup parlé des Proud Boys, ces milices pro-Trump, mais il y a aussi des familles. Moi j'ai été dans plusieurs rassemblements de ce type ces dernières semaines à Washington, et il y a parfois une ambiance bon enfant. Alors on sent quand même la tension monter. Là il y a une scène, il y a tout à l'heure qui était assez marquante, il y a des pro-Trump qui se sont rapprochés du Congrès et qui ont entouré des sénateurs, notamment le sénateur républicain Todd Young, pour lui dire il ne faut pas certifier la victoire de Joe Biden. Et là, on sent la frustration des sénateurs, pour certains, des sénateurs républicains dits plus modérés. Ce sénateur de l'Indiana a dit « Moi aussi, je pense que Donald Trump aurait dû rester président, mais nos opinions ne comptent pas, c'est la loi qui compte. » Et là, on le voyait vraiment entouré par des pro-Trump vraiment en colère, et donc on sent vraiment la tension monter.
Donald Trump, hier en meeting, a eu cette phrase, il a dit « c'est votre dernière chance de sauver l'Amérique telle que nous l'aimons ». C'était un appel donc à la mobilisation. Je précise, et je vous rends la parole, Sonia Dridi, mais 340 gardes nationaux sont mobilisés pour encadrer cette manifestation. Clairement, on craint que les tensions qu'on avait redoutées d'ailleurs au moment même de l'élection se produisent maintenant, alors même que dans une quinzaine de jours, il faudra quitter la Maison-Blanche.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la ville de Washington a été barricadée, hein, comme elle l'avait été au moment de l'élection en novembre. À la veille donc, de cette manifestation, tous les magasins étaient fermés avec des planches qui ont été posées sur la plupart des devantures. Donc, on sent la tension monter. Alors, on l'a vu au lendemain de l'élection, finalement, il n'y a pas vraiment eu de violence. Et j'ai été à un rassemblement peu de temps après l'élection où finalement, on sentait que ces pro-Trump vraiment pense qu'il a remporté l'élection et qu'il y a eu de la fraude, mais je ne pense pas non plus que tous pourraient user de la violence. Alors, on a vu, par exemple, qu'il y a eu une dizaine d'arrestations, hein, jusqu'à ce matin, de membres qui se sont déjà pris aux forces de l'ordre ou avaient été armés. Donc, la ville de Washington est très vigilante. Je ne suis pas sûre, je pense qu'il y aura forcément des tensions. Je ne suis pas sûre qu'on D'accord. peut s'attendre à de grandes violences, mais c'est sûr qu'ils sont extrêmement déterminés.
Et je crois qu'en ce moment même, Donald Trump est en train de prendre la parole devant ses supporters à quelques mètres du Capitole, là où va même se valider, d'une certaine manière, l'élection de Joe Biden.
Oui, c'est ahurissant. À chaque fois qu'il fait quelque chose, on se dit les sommets sont atteints. Et là, avec le coup de fil, l'incitation à la violence, et maintenant parler devant le Capitole pour envoyer la dernière pression aux sénateurs républicains en leur demandant de violer la loi. Il a demandé ça au responsable électoral en Géorgie, et maintenant il dit aux sénateurs... Oui, vous décertifiez. Alors
ça veut dire quoi, vous décertifiez? Il dit aux sénateurs républicains, ne validez pas cette élection qui est truquée.
Oui, sauf qu'en fait, c'est impossible, parce que telles que les règles sont, on va le voir, Mike Pence, lui aussi, subit des pressions terribles, puisqu'il lui dit, hein, t'as intérêt à faire ce que j'attends, sinon je t'aimerai moins.
Il lui dit, pardon, on a la phrase, il lui dit, le vice-président, et vous allez dire si c'est le cas, a le pouvoir de rejeter des grands électeurs choisis de manière frauduleuse. Sous-entendu, tu es mon vice-président, tu dois faire en sorte que cette élection ne soit pas validée. Il peut le faire.
Oui, et répétant, choisi de façon frauduleuse. Or, il y a eu 60 actions en justice au niveau de l'État, au niveau fédéral, 3 devant la Cour suprême, et tous les juges, des juges républicains, des juges démocrates, ont dit il n'y a aucune base légale, il n'y a aucune preuve. Donc, quand il répète cette allégation, c'est une allégation, sauf que c'est entendu par les 80 millions qui le suivent, qui suivent son fil Twitter.
Mais est-ce que c'est vrai, alors, légalement non, est-ce que le vice-président a la possibilité de...
Non.
D'infléchir sur le résultat du scrutin.
C'est un rôle purement cérémonial. Qu'est-ce que ça se passe? On rassemble les deux chambres. On a 2 sénateurs, un républicain, un démocrate. La démocrate, c'est Klobuchar, la sénatrice du Minnesota qui était candidate. Même chose du côté de la chambre. Un républicain, nanana. Et ils sont juste là pour entendre le décompte des voix. Donc, quand ce sera la Géorgie, tant de voix. Quand ce sera la Pennsylvanie, 20 grands électeurs, etc. Et Pence, il est là pour vérifier que tout se passe bien. Il n'a aucune possibilité d'agir. Et les textes sont extrêmement clairs. Les textes n'ont pas toujours été très clairs quant aux diverses possibilités. Mais cette cérémonie qui a lieu 6 jours après, donc le 6 janvier, ça c'est écrit dans la loi, précise les fonctions de Trump. Et les fonctions de Trump, de Mike Pence, c'est de compter.
Donc il ne peut pas y avoir de surprise aujourd'hui. Je vous donne la parole, Sofiane Al-Sabag. Je dis il ne peut pas y avoir de surprise, outre ce qui est en train de se passer devant le Capitole, on l'a bien compris, on va voir des images dans quelques instants, qui est une démonstration de force de Donald Trump avec ses supporters. Ted Cruz et des sénateurs républicains refusent de valider l'élection au Capitole. Alors là, est-ce que ça peut bloquer la cérémonie, j'allais dire, ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui au Capitole, à savoir la validation de l'élection de Joe Biden?
Les lignes de fracture sont maintenant très très bien définies au sein du Parti républicain au Congrès et on sait qu'il y aura seulement une douzaine, peut-être une quinzaine maximum de sénateurs républicains qui vont refuser de confirmer les résultats de l'élection. Et ce qui se joue en ce 6 janvier, en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout l'élection de 2020, c'est d'ores et déjà l'élection de 2024 où vous avez des sénateurs républicains qui vont se diviser très clairement entre 2 camps. Premier camp, celui des loyalistes envers Trump, qui vont le suivre jusqu'au bout, qui vont refuser de certifier. Alors, dedans, vous avez notamment le sénateur du Missouri, Josh Hawley, vous avez le sénateur du Texas, Ted Cruz, et vous avez une deuxième ligne, plus traditionnaliste, plus liée à l'establishment du parti, qui, là, va juste accepter les résultats et s'en tenir à son rôle, comme Ad-Dezin l'a très bien expliqué, de compter les voix et de confirmer les résultats du collège électoral comme il le devrait. Et dans cette deuxième catégorie, c'était un peu surprenant, mais on peut compter Tom Cotton, qui était auparavant l'un des pionniers de la ligne Trump, et qui semble se rabattre, clairement en pensant à 2024, vers la ligne plus traditionnelle du Parti républicain.
Mais ces sénateurs-là, en refusant de valider d'une certaine manière ce scrutin-là, ça ne pèse pas dans ce qui est en train de se passer en ce moment même au Capitole?
Absolument pas. En fait, c'est vraiment l'inverse qui est recherché. C'est que le rassemblement au Capitole est fait pour pressuriser au maximum les sénateurs républicains. Et encore une fois, on sait d'ores et déjà qu'avec 12-15 sénateurs, ce ne sera pas suffisant pour changer le résultat. Il faudrait tout simplement une majorité de sénateurs pour effectivement invalider le résultat de l'élection. Et on sait d'ores et déjà qu'il y aura un nombre suffisant de sénateurs républicains pour confirmer les résultats de l'élection.
Ce qui est dingue, pardon de le dire comme ça, tout est dingue dans cette histoire, Anne Désine, mais ça continue à l'être, c'est que le scrutin a eu lieu. On a fait les comptes. Joe Biden a été largement élu.
On a certifié le 14 décembre. Toute la journée, les télévisions nous ont montré chaque État qui disait l'État untel donne tant de grands électeurs à tel candidat.
Et on en est encore à compter. Oui. Et on en est encore avec des sénateurs qui disent nous ne validons pas ce scrutin.
Oui, parce que l'enjeu, c'est 2024. Et 2024, ils sont, les Ted Cruz, Hawley et compagnie, ils sont pro-Trump parce qu'ils ont besoin des voix de Trump en 2024 dans l'hypothèse d'une candidature. Mais les républicains traditionnalistes, comme disait Souvia, ils sont un petit peu plus que ça. Ils admettent que le risque pour les institutions, le risque pour la confiance qu'ont les électeurs dans la démocratie et la démocratie elle-même sont gigantesques. Parce qu'il faut bien voir que Trump a voulu tout détruire depuis le début. Mais ce qui a rendu possible cette œuvre de destruction, de démantèlement, c'est le fait que les républicains n'ont jamais voulu résister. Rappelons-nous qu'ils n'ont pas voulu voter la destitution. Ouais. Or, l'abus de pouvoir était très clair. Il n'y a que Romney qui a osé voter. Donc là, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est vraiment... Ça va prendre 8 heures à peu près, donc on le saura pendant la nuit en France. Parce que ce qui se passe, c'est que dès que quelqu'un va contester, mettons un sénateur, les chambres vont se séparer, il va y avoir un débat de 2 heures, et à l'issue du débat de 2 heures, où ils vont tous raconter leurs horreurs, il y aura un vote. Et de toute façon, même si les sénateurs votaient pour dire que l'élection va à Trump, la chambre est sous contrôle démocrate et... elle dira non, c'est Biden.
Donc alors ça sert à quoi
Ça sert à pacifier Trump, à assurer les voix pour 2024, mais du côté négatif, ça sert à complètement détruire l'image de l'Amérique, et pas seulement en interne, la confiance des électeurs, mais au plan international. Poutine et les autres se frottent les mains, ils n'ont plus besoin de faire des cyberattaques. Trump fait tout le boulot pour lui. Et ce qui s'est passé en Géorgie, dont on va parler, c'est la même chose. Il a fait passer son petit égo blessé avant l'avenir du pays, du parti républicain.
En tout cas, les supporters de Donald Trump rêvent sans doute d'un ultime coup de force. Ils se sont réunis cet après-midi à Washington, au moment où le Congrès va, on l'a bien compris, officialiser la victoire de Joe Biden. Celui qui reste encore président des États-Unis, Donald Trump, ose tout dans cette dernière ligne droite, y compris, vous allez l'entendre, un coup de téléphone pour récupérer des voix, un coup de fil qui a fait scandale aux États-Unis. Mélanie Lunès et Nicolas Baudry-Dasson.
Ils ont afflué des quatre coins de l'Amérique à l'appel de leur chef.
J'ai besoin de vous pour que le président Trump reste 4 ans de plus.
Une mobilisation au moment où le Congrès s'apprête à officialiser la défaite à la présidentielle de Donald Trump. À la tribune, son fils, venu galvaniser la foule.
Le fait que vous soyez là, en ce jour froid de janvier, renforce mes convictions. C'est un message pour tous les républicains qui ne nous ont pas encore rejoints dans le combat.
Des partisans, persuadés que l'élection du 3 novembre dernier était truquée.
Je crois en Donald Trump. Je pense que cette élection est volée.
Je suis venu de Chicago. Je veux Donald Trump 4 ans de plus. On refuse ce qu'il se passe.
Hier soir, des Proud Boys, soutiens de Donald Trump, ont défilé dans les rues de Washington. Une provocation au cœur de la ville, à un face-à-face sans respecter les gestes barrières. De son côté, lui tente le tout pour le tout. Dans quelques jours, Donald Trump devrait céder sa place à la Maison-Blanche à Joe Biden. Une victoire pour le candidat démocrate que son adversaire républicain n'a toujours pas officiellement reconnu et qu'il conteste en appelant à recompter les voix, notamment en Géorgie. Un État perdu qu'il tente par tous les moyens de récupérer, quitte à faire polémique avec un appel surréaliste passé au secrétaire d'État de Géorgie.
Je veux juste 11 780 votes, ce qui est un de plus que ce que nous avons. Parce que nous avons gagné l'État et honnêtement, cela devra aller très vite. Tu sais, les gens de Géorgie savent que c'était une arnaque.
Une conversation téléphonique enregistrée et remise au Washington Post. Un scandale de plus qui met mal à l'aise son interlocuteur.
C'était une conversation privée en ce qui me concernait. Je n'ai pas enregistré son appel téléphonique. Je l'ai eu sur haut-parleur et ma femme était là. Nous n'avons pas enregistré quoi que ce soit, mais d'autres personnes écoutaient cet appel.
Une onde de choc, pire que le Watergate, selon le journaliste qui a révélé l'affaire, qui a mené à la démission de Nixon.
C'est l'un des plus grands crimes présidentiels de tous les temps. Peut-être du jamais vu. Cette bande sonore est la preuve la plus flagrante d'un président qui commet un crime.
Un crime auquel ne croient pas ses plus fidèles soutiens. Une douzaine d'élus républicains de la Chambre et du Sénat se montrent solidaires et refusent de certifier la victoire de Joe Biden.
Nous voulons une action, une enquête pour déceler des irrégularités. Nous voulons de nouvelles lois électorales pour être sûr que leur vote soit respecté.
Et celui qui présidera la séance au Congrès, c'est son vice-président Mike Pence, pris en étau entre la Constitution et le président américain. Il y a 2 jours, lors d'un meeting, ce dernier lui demandait de s'y opposer.
Et j'espère que notre grand vice-président ne nous décevra pas. C'est un gars super. Bien entendu, s'il nous déçoit, je ne l'aimerais plus autant.
Alors Donald Trump acceptera-t-il la défaite ? Certains s'inquiètent. 10 anciens secrétaires à la Défense signent une tribune pour alerter contre le potentiel recours à l'armée par un Trump aux abois.
L'armée n'a aucun rôle à jouer dans la détermination du résultat d'une élection américaine. Impliquer les forces armées américaines dans la résolution des conflits électoraux nous entraînerait vers un chemin dangereux, illégal et inconstitutionnel.
Le 20 janvier prochain aura lieu l'investiture du nouveau président en présence de l'ancien dirigeant républicain George Bush à la Maison-Blanche entre 2001 et 2009. Selon NBC, Donald Trump pourrait quant à lui annoncer ce jour-là sa candidature à l'élection 2024.
Et nous accueillons François Clémenceau. Merci de nous avoir rejoints. Je rappelle, vous êtes rédacteur en chef international au journal du Dimanche. On va revenir quand même sur ce coup de fil absolument incroyable. On entendait dans le reportage Carl Bernstein, le journaliste qui a révélé le Watergate, dire c'est plus grave, c'est pire que le Watergate, ce qui s'est passé. On entend quand même un président, encore en exercice officiellement des États-Unis, réclamer 11 780 voix. Trouvez-les où vous voulez, ouais. Mais donnez-les-moi.
C'est extraordinairement surprenant et tellement inattendu pour nous, Européens, y compris pour une grande majorité d'Américains qui découvrent le fait que ce président ne croit plus, non seulement dans les chiffres officiels de la victoire présidentielle, mais ne sait plus tellement qui il est.
Je veux dire, Pourquoi vous dites ça ?
Mais parce que les reportages qu'on voit dans la presse américaine depuis 48 heures nous parlent d'un président qui sait qu'il a perdu, mais qui ne veut pas le reconnaître et qui n'arrive pas à l'avouer publiquement, ça on l'a bien compris, mais en même temps à se préparer à partir. Donc, il fait tout ce qu'il peut pour s'agiter, pour être présent, pour parler à ses foules, on l'a vu notamment quand il est allé en Géorgie, et pour en quelque sorte récompenser ces millions d'électeurs qui ont voté pour lui et qui attendent de lui qu'il joue exactement ce rôle-là, c'est-à-dire celui de l'homme qui conteste jusqu'au bout, qui se bat contre le système jusqu'au bout, qui se bat contre les juges. Et donc, j'allais dire, il y a quelque chose d'assez schizophrénique en ce moment, en tout cas dans ce cerveau, c'est de se dire, il l'a dit à ses proches, je sais que j'ai perdu, mais je me battrai jusqu'au bout. Donc,
qu'est-ce qu'il espère en demandant 11 780 voix d'une élection qui date de 2 mois ?
Inverser le rapport de force qui existait en Géorgie, puisque l'élection s'est faite exactement à ce chiffre-là, à une voix près. Sauf que ça ne suffit même pas. Parce que même si, effectivement, ce ministre de l'Intérieur de Géorgie, qui est un républicain, qui est un trumpiste, et qui lui dit « Monsieur le Président, je suis désolé, on a publié les résultats, on les a certifiés, on a recompté 3 fois, et la victoire est à Joe Biden. » Même ce ministre de l'Intérieur-là, s'il acceptait le deal que lui propose Trump, ça ne suffirait pas pour que Trump remporte la présidentielle américaine. Donc, on voit bien que ce sont des coups. C'est une façon d'intimider, c'est une façon de montrer qu'il est encore, combatif. Mais tout le monde a bien compris, en tout cas dans le camp démocrate, dans le camp de la transition, le camp Biden, et y compris chez les républicains, que ce n'est plus possible et que cette image qu'il donne est contre-productive, à la fois pour lui-même, mais aussi pour le Parti républicain, dont on voit bien, y compris au Sénat, y compris en Géorgie, y compris dans d'autres États, qu'ils sont eux-mêmes désireux d'avancer, de rentrer dans l'opposition et d'être une force d'opposition
justement,
à Joe Biden.
Justement, pour continuer à parler des Républicains avec vous, Sofiane Al-Sabag, un commentaire sur les Républicains, cette phrase de l'ancien speaker républicain de la Chambre des représentants, qui dit c'est un acte antidémocratique et anticonservateur. Ils en ont avalé des couleuvres jusqu'ici, les conservateurs et certains proches ou certains conservateurs, certains républicains. Cette fois-ci, on a l'impression que c'est le coup de trop, en tout cas pour cette personne-là en particulier.
Oui, parce que je crois que ce qu'on est en train de voir aux États-Unis, c'est la définition au fond de deux conservatismes. Vous avez le conservatisme institutionnel, le camp des conservateurs qui disent « Notre travail, c'est de préserver les institutions des États-Unis, d'être fidèle à la Constitution, d'être fidèle à nos normes, d'être fidèle à nos lois, etc. » Joe Biden a eu plus de voix, l'élection a été certifiée, tout le processus a été suivi de façon régulière. Donc moi, en tant que conservateur, je vais voter pour certifier les résultats. Et il y a une deuxième branche de conservatisme qui est très clairement affiliée à Trump. Et cette branche de conservatisme, pour cette branche, la priorité est de préserver l'Amérique, entre guillemets, originelle. L'Amérique blanche, l'Amérique religieuse, l'Amérique de la ruralité, l'Amérique qui, au fond, ne ressemble pas du tout à celle que défend Joe Biden, celle qui a gagné l'élection il y a 2 mois. Et pour cette deuxième Amérique, cette priorité du conservatisme, je dirais, traditionnel, à la limite sociale, sociétale, eh bien, a primauté sur tout, y compris la démocratie, y compris les institutions, y compris le fait d'avoir un processus légal, légitime, et au fond reconnu par tous. Et donc c'est ça qu'on est en train de voir aux États-Unis, le gap absolument immense qui est en train de se creuser et qui sera, je crois, au cœur des débats au sein du camp républicain jusqu'à l'élection de 2024 et la primaire qui, il faut le noter, a d'ores et déjà commencé avec des sénateurs qui choisissent leur camp.
Sonia Dridi, sur cet appel et sur l'émoi suscité aux États-Unis.
Oui, alors c'est clairement un appel extraordinaire, même si lorsqu'on a suivi ce mandat de Donald Trump, on n'est pas tellement surpris. Il mêle menace, flatterie, il a fait pression sur cet officiel de Géorgie. Mais on sent aussi évidemment un Donald Trump désespéré qui, comme l'a dit François, il a confié en effet plusieurs fois à des proches qu'il avait bien compris qu'il avait perdu, mais aussi on sent qu'il se persuade parfois qu'en fait il a gagné et il a passé des coups de fil à des proches, à des conseillers en disant mais est-ce que tu crois qu'il y a vraiment eu des fraudes et je pense qu'il se persuade qu'il a tout de même remporté cette élection. Et on sait que Donald Trump ne veut pas apparaître comme un loser, un perdant. Pour lui, c'est inacceptable. Et il est capable aussi de continuer dans cette direction, dans cette rhétorique, parce qu'il y a des gens autour de lui qui continuent à lui dire que oui, il y a de la fraude. Il s'entoure notamment d'avocats, de conseillers qui sont adeptes de théories conspirationnistes, notamment QAnon. Et d'ailleurs, quand on écoute cet appel, c'est assez frappant. Il répète vraiment des théories qu'il a vues sur les sites conspirationnistes, comme le site conspirationniste 4chan, et c'est vraiment frappant, il n'y a aucune preuve de ces fraudes, il répète ce que des adeptes de théories de conspirationnistes disent, et c'est vraiment parce qu'il y a des gens qui continuent de le persuader qu'il y a eu des fraudes, qu'il continue dans cette direction. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que pendant son premier mandat, il a finalement réussi à unir le parti républicain derrière lui parce que Trump mobilise, mais là on voit qu'il y a toute cette partie des républicains traditionnels, plus de l'establishment, qui commence à être exaspérée. On a de nouveau entendu tout à l'heure l'un des officiels des Géorgie, Sterling, qui a dit qu'il n'y a eu aucune fraude dans cette élection. Lui-même est un conservateur. Et donc là, on sent vraiment cette scission au sein du parti républicain qui reprend.
Je ne sais pas si vous avez des doutes les uns et les autres sur sa détermination, mais il vient de s'exprimer quelques mètres du Capitole devant ses supporters, Donald Trump. Et il vient de dire ceci: nous ne concéderons jamais la défaite, nous n'abandonnerons jamais.
Oui, parce que ces électeurs veulent entendre ça. C'est vrai, quelqu'un a parlé de secte, c'est une secte, ils adorent. Ce qui est intéressant avec Trump, il y a de l'amour autant que de la haine anti-Trump. Et c'est pas un homme qui laisse indifférent.
Je voudrais juste, Andazine, vous poser une question pour boucler la boucle sur cet enregistrement. Est-ce qu'il risque quelque chose, Donald Trump?
Alors,
judiciairement, naturellement.
Au niveau constitutionnel, si ce n'était pas la fin de mandat, il est passible d'une mise en accusation. C'est la même chose que le coup de fil à Zelensky. C'est un abus de pouvoir. Il utilise les ressources de l'État à des fins personnelles, en l'occurrence pour se maintenir au pouvoir. Bon, il n'y aura pas d'impeachment puisque c'est la fin de mandat. Et d'ailleurs, il faudrait se demander s'il y aurait assez de sénateurs républicains, même aujourd'hui, pour voter la destitution. Donc il faut se tourner vers le droit pénal. Et la plupart des experts considèrent que cet appel à tricher, donc à faire de la fraude électorale et solliciter cette fraude, c'est une violation de plusieurs lois fédérales et de lois de l'État de Géorgie. Donc il serait tout à fait possible que le département de la justice enquête et décide de poursuivre. Mais là, c'est le dilemme de Biden. Biden, il a fait campagne sur « je réunifie l'Amérique ». Et il sait très bien que s'il y a un début de poursuite au niveau fédéral, ça va immédiatement être instrumentalisé par Trump, qui va continuer à tweeter, et par tous les médias que moi, je n'appelle plus conservateurs, mais réactionnaires ou d'extrême droite, c'est-à-dire non seulement Fox News, mais ceux qui ont doublé Fox News sur la droite, qui vont dire « c'est de l'acharnement, c'est politique, c'est partisan, etc. ». Alors il reste la chance, si j'ose dire, des actions en justice au niveau de l'État. Il y a déjà toutes les casseroles qu'il a dans l'État de New York sur les dossiers financiers. Et là, on pourrait imaginer que le procureur de Géorgie diligente des poursuites.
Il y aurait matière à diligenter des poursuites.
Il y a vraiment violation de la loi. Si on admet qu'un politique, en l'occurrence le président, peut demander une fraude électorale à quelqu'un, alors là, c'est la fin de tout le système. Donc, et c'est tout le problème de la corruption aux États-Unis, parce que depuis 20 ans, rien n'est poursuivi. Et donc, il y a un sens d'impunité qui s'est instauré. Et il faudrait marquer le coup. Mais au niveau fédéral, Biden a très peur de l'instrumentalisation que cela donnerait. Et il répète sur tous les tons, mon département de la justice sera autonome, ce n'est pas moi qui donnerai des ordres.
Il peut toujours le dire. Non, c'est comme en France.
On peut. Oui, bien sûr, il faut penser à ça.
Quelles dernières armes restent à Donald Trump pour tenter d'inverser le cours de cette élection présidentielle? Elle est importante, cette question, François Clémenceau, de la manière dont elle est formulée. Quelles dernières armes? Parce que d'anciens secrétaires d'État à la Défense ont publié un éditorial commun, c'était le week-end dernier dans le Washington Post, pour dire clairement qu'il ne fallait pas impliquer les forces armées dans l'organisation éventuelle d'un nouveau scrutin. C'est pas rien.
Non, bien entendu, mais on voit bien dans la réaction de ces anciens ministres de la Défense, démocrates et républicains, dont le dernier en date, qui a servi sous Trump, et son prédécesseur Jim Mattis, que c'est une sorte de coup de semonce. Ce n'est pas pour laisser croire que ce serait possible, c'est pour bien rappeler quelles sont les règles constitutionnelles dont parlait Anne tout à l'heure. Il est impossible, selon la Constitution, à l'armée d'intervenir dans la politique, dans un camp ou pour un autre. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le chef d'état-major des armées, au moment où il y avait eu ces troubles, rappelez-vous, à Washington, où Trump était sorti de la Maison-Blanche, vous vous rappelez, bien sûr, Lafayette Square, avec une Bible dans la main, et il était escorté à ce moment-là de son chef d'état-major en treillis, lequel s'est excusé ensuite en disant « j'aurais pas dû, ça a prêté à une confusion des rôles ». Et depuis, ce chef d'état-major, le général Riley, a précisé à ses propres troupes, à ses grands officiers de l'armée, de toutes les branches de l'armée, que le devoir des militaires américains était de respecter la Constitution en leur rappelant qu'ils ont fait allégeance à la Constitution, au drapeau, mais pas au président.
Pardon, François Clémenceau, mais c'est un sujet qu'ils sont obligés de le rappeler.
Mais bien entendu que c'est un sujet, mais en même temps, on voit bien que le souci des démocrates, le souci des gardiens des institutions, de ceux en tout cas qui jouent activement le rôle de la protection des institutions, c'est de signaler qu'il y a une possible dérive, il y a une possible pulsion qui existe, puisqu'on a affaire à quelqu'un qui est incontrôlable et qui lui-même se vante d'être absolument insaisissable et très surprenant. Donc, on préfère mettre des garde-fous, rappeler quelles sont les règles de la démocratie américaine. Ça peut servir et ça rappelle aussi aux Américains, tout simplement, qu'eux-mêmes, lorsqu'ils sont à l'école, ils prêtent serment la main sur le cœur face au drapeau et ils jurent de prêter allégeance à la Constitution des États-Unis. Ça n'est pas rien.
Et on rappelle qu'il y a deux secrétaires d'État qui ont été nommés par Donald Trump, Jim Mattis et Mark Esper, qui ont signé cette tribune. Ça sort de nulle part, non, Sonia Dridi, mais est-ce qu'il y a certains des proches de Donald Trump qui ont suggéré d'avoir recours à la loi martiale?
Alors, ce qu'on sait, c'est que oui, certains l'ont encouragé, ont encouragé Donald Trump à faire cela, mais on voit aussi que de plus en plus, encourage Donald Trump finalement à accepter cette défaite. Il y a tout à l'heure une source anonyme d'un des conseillers de Donald Trump qui disait qu'il avait un comportement horrible à l'égard de son vice-président Mike Pence parce qu'il le pousse justement à ne pas reconnaître aujourd'hui la victoire de Joe Biden. Il y a quand même des proches de Donald Trump qui comprennent qu'il est en train d'aller trop loin, et en tout cas de façon anonyme, beaucoup se confient notamment à la chaîne CNN, qui d'ailleurs n'est pas c'est assez rare, elle n'est pas en train de retransmettre le discours actuellement de Donald Trump en direct. Il y a quand même de plus en plus de conseillers qui anonymement se disent de plus en plus dépassés par ce qui est en train de se passer.
Anne Desine, vous voulez dire un mot? On parlait de Mike Pence à l'instant. Il vient, il continue de s'exprimer, Donald Trump, et il vient d'interpeller Mike Pence en disant « il faut qu'il recertifie les États pour que je redevienne président ». Il continue de lui adresser des messages alors qu'il est en ce moment même au Capitole,
oui, en train de parler.
Vice-président.
Oui, on parlait de Michael Flynn. C'est lui qui susurre dans l'oreille du président et le pousse au crime en disant « écoutez, on va déclarer la loi martiale. Eux ne souhaitent qu'une chose, c'est que cette énorme manifestation dégénère en violence et que la police mobilisée par la maire de Washington et la garde nationale ne suffisent pas, les 350 personnes dont vous parliez tout à l'heure, et que donc, à ce moment-là, Trump se saisisse de cela, la maire n'est pas capable de maintenir l'ordre dans la capitale fédérale, donc moi, je déclare la loi martiale. Et bon, c'est une toute petite chance ou malchance, c'est peut-être, mais c'est quand même dramatique qu'on soit obligé d'envisager cette hypothèse pour ensuite tenter de se rassurer en disant bon, a priori, ça ne va pas se produire, mais donc qu'il faille cet éditorial. Et ça rassure aussi les troupes au Pentagone qui sont très, parce qu'à partir du moment où il a limogé le ministre de la Défense et mis un certain nombre de pions qui sont des loyaux et non pas des compétences, ça veut dire qu'il peut demander n'importe quelle décision, y compris la plus inique, la plus inconstitutionnelle, à ces fameux pions loyaux. Donc il y a un vrai danger.
Je vous pose la question à vous, Anne Desine, sur les dernières armes, les dernières cartouches, c'est le titre de l'émission ce soir. Institutionnellement, il n'a plus aucun levier. Non. Aujourd'hui,
non.
Donald Trump.
À part vraiment détruire tout en décrétant la loi martiale, mais même, a priori, ça ne devrait pas fonctionner. Dans le début de son mandat, il y a eu de la résistance un petit peu partout, y compris dans l'exécutif, y compris dans les forces armées, et on peut penser qu'à ce niveau de violation constitutionnelle, il y aurait une résistance des généraux.
Juste, il est censé partir le 20 janvier à midi.
Oui, il va jouer au golf en Écosse, on m'a dit.
Ben non, il paraît que ce ne sera pas si simple que ça, que, parce que la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a dit vous ne pourrez pas atterrir pour jouer au golf ce jour-là, visiblement.
Non, mais il y a l'autre hypothèse qui consiste à ce qu'il aille en Floride le 20 janvier dans la matinée, sans même donc accueillir Biden à la Maison-Blanche pour lui offrir une tasse de thé et lui souhaiter la bienvenue, et qu'il profite de son escale en Floride pour tenir meeting et annoncer sa candidature en 2024. C'est pour l'instant ce qui a été annoncé, ce qui n'a jamais été confirmé par lui en personne, mais
sauf que les autorités veulent la fermeture de Mar-a-Lago parce qu'ils ne respectent pas les règles
mais
sanitaires.
Ça, c'est, j'allais dire, c'est anecdotique par rapport au fait qu'il sera l'un des très 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 rares présidents à ne pas assister à la passation des pouvoirs au Capitole, et c'est quand même très symbolique que George W. Bush, le dernier président républicain avant Donald Trump, et annoncé de lui-même qu'il allait à cette cérémonie pour attester, pour cautionner le processus démocratique en cours.
Et Donald Trump qui s'exprime en ce moment, comme ça pendant toute l'émission, je vous ferai des citations de Donald Trump, et il dit « les républicains sont faibles et pathétiques ». Il ne va pas se faire que des amis, Donald Trump. En tout cas, c'est une élection sénatoriale qui a des allures de troisième tour. En Géorgie se joue l'équilibre politique du Sénat. Deux élections cruciales qui vont donner ou non une majorité à Joe Biden. Le révérend Raphaël Warnock, premier élu noir démocrate de cet État conservateur, revendique donc sa victoire, alors que le deuxième scrutin et l'autre duel est un peu plus serré. Laura Rado et Benoît Thébault.
CNN peut à présent confirmer l'élection du candidat démocrate Raphaël Warnock au Sénat.
Ce matin, le démocrate Raphaël Warnock est donc devenu le premier sénateur noir de l'histoire de l'État de Géorgie. Une victoire cruciale pour le camp démocrate.
I Les citoyens de Géorgie ont envoyé un message clair hier soir en élisant une personne qui a grandi dans un HLM. Le seul diplômé d'université parmi 12 frères et sœurs. Je serai au Sénat dans quelques jours contre toutes les prédictions, car nous sommes en Amérique. Et je veux que les jeunes qui nous regardent sachent qu'ici, rien n'est impossible.
Raphaël Warnock, 51 ans, pasteur à Atlanta dans la paroisse où officiait Martin Luther King. Dans cet État sudiste, traditionnellement conservateur, il a bénéficié d'une participation massive dans les grandes villes à majorité afro-américaine. Deuxième démocrate en lice dans cette élection de Géorgie, John Ossoff, le jeune producteur de documentaires, légèrement en tête dans les dépouillements, a revendiqué sa victoire. À 33 ans, il pourrait devenir le plus jeune sénateur depuis Joe Biden.
C'est plein d'humilité que je remercie les électeurs de Géorgie de m'avoir élu pour vous servir au Sénat des États-Unis. Merci pour la confiance que vous m'avez témoignée.
En Géorgie, une double élection à valeur de deuxième tour après la présidentielle du 3 novembre. Les présidents élus et sortants ont repris le chemin des estrades pour y rappeler l'importance du scrutin.
Le pouvoir est entre vos mains. Je n'ai jamais connu cela dans ma carrière. Un seul État peut changer la trajectoire non seulement pour les quatre années à venir, mais pour la prochaine génération.
Si vous n'allez pas voter, les socialistes, les marxistes dirigeront notre pays. Si vous ne donnez pas tout ce que vous avez pour sauver votre pays, vous n'aurez plus de pays.
Pour les Républicains, perdre la Géorgie reviendrait tout simplement à perdre le contrôle du Sénat. Si la double victoire démocrate se confirme, avec 50 sièges chacun, les deux camps seront à égalité parfaite. C'est alors la voix de la vice-présidente élue, Kamala Harris, qui ferait basculer le Sénat côté démocrate. Avec les deux chambres du Capitole derrière lui, Joe Biden aura les mains libres pour mettre en place son programme. En tête de ses priorités, un plan de soutien aux ménages les plus touchés par la crise sanitaire.
Si vous envoyez John et le révérend à Washington, ces chèques de $2000 redonneront espoir, dignité et honneur à tant de personnes qui sont en ce moment en difficulté. Et si vous renvoyez les sénateurs républicains Perdue et Loeffler à Washington, ces chèques n'arriveront jamais. C'est aussi simple que ça.
Car c'est bien au Sénat que se joue la politique américaine. Les interventions militaires, la question des armes, le budget fédéral ou encore les confirmations des juges à la Cour suprême. Celle de la très conservatrice Amy Coney Barrett en octobre avait créé la polémique. Grâce à leur majorité à l'époque, les sénateurs républicains avaient pu accélérer le calendrier et ainsi valider sa désignation quelques jours avant la présidentielle.
C'est quelque chose dont il faut vraiment être fier et dont il faut se féliciter. Nous avons apporté une contribution importante à l'avenir de ce pays. Une grande partie de ce que nous avons fait au cours des quatre dernières années sera annulée tôt ou tard par les prochaines élections. Vous ne pourrez pas faire grand-chose à ce sujet avant longtemps.
Le Sénat, qui tout récemment a fait preuve de sa puissance. Le 1er janvier, républicains et démocrates ont joint leurs forces pour contourner le veto de Donald Trump et adopter le budget de la défense.
Et cette question, le comportement de Trump dans le déni des résultats a-t-il favorisé le vote démocrate au sénatorial en Géorgie, François Clémenceau?
C'est possible. C'est possible qu'il ait désemparé un certain nombre d'électeurs républicains qui soit se disaient « de toute façon, cette élection est truquée, ça ne sert à rien que je vote », soit « de toute façon, quoi que je fasse, c'est trop tard ». Puisque même en imaginant que l'un des deux candidats républicains ait gagné, le Sénat aurait été malgré tout divisé à 51-49. Non, mais je veux dire, encore une fois, c'est, bien sûr que c'est très important pour Joe Biden d'avoir cette victoire et que Kamala Harris puisse jouer la voix prépondérante au Sénat parce que ça va faciliter son travail gouvernemental. Mais si vous êtes trumpiste, le fait même que le président parte, c'est quand même la fin de tout. C'est la fin du rêve, c'est la fin des promesses, c'est la fin d'une espérance pour eux. Ça, tellement de choses leur avaient été promises à partir de là. Et donc, il y a eu d'autre part, chez les démocrates, les électeurs démocrates, un sursaut de mobilisation, on le voit dans les chiffres, notamment chez les électeurs afro-américains qui se sont déplacés en masse, et peut-être même dans les dernières heures du scrutin hier soir, lorsqu'on a appris qu'à l'autre bout du pays, dans le Wisconsin, le policier qui avait tué, comment s'appelait-il ? Un noir qui avait été tué de 7 balles dans le dos dans ce qui était une bavure, lorsque ce policier, finalement, a été acquitté. Ouais. En tout cas, pas inculpé.
Il n'y a pas eu de charge. Voilà, c'est ça.
Et donc, à ce moment-là, beaucoup se sont dit, ça, c'est l'ère Trump, je n'en veux plus, je ne veux plus de cette sorte de laxisme vis-à-vis des policiers blancs qui tirent sur des noirs, et donc je me mobilise encore davantage et je vais voter. Et donc, oui, il est très probable que, j'allais dire, le climat qu'on a connu ces dernières semaines ait eu un impact sur les centaines de milliers de voix qui manquaient pour que ces deux candidats démocrates
et
l'emportent.
Et ça n'est pas rien, Soufiane Al-Sabak, sur cette terre qui est une terre conservatrice, hein, pas de sénateur démocrate depuis 20 ans.
Absolument, c'est vraiment un exploit qu'on, je crois, a réussi à accomplir les démocrates. C'était pas du tout gagné parce qu'effectivement, le dernier candidat démocrate à s'être imposé en Géorgie, c'était 1992, avant Joe Biden. Et effectivement, Kelly Loeffler, très précisément, avait été sélectionnée par les Républicains en janvier 2020 parce qu'elle avait un profil plutôt centriste. C'était une femme capable d'attirer, je dirais, des électeurs plus modérés que le Trumpiste moyen. Et donc, on voit que ce pari des Républicains a été perdu puisque Warnock a réussi à récupérer ce siège et devrait, selon toute vraisemblance, eh bien, être investi le 22 janvier, juste après Joe Biden. Maintenant, il faut bien dire que ce Sénat divisé à 50-50, ça fait les affaires de Joe Biden, mais rien n'est gagné pour autant. Passer des lois avec simplement 50 sénateurs plus la vice-présidente pour casser l'égalité, ça va être extrêmement compliqué. Il suffirait d'un seul, deux sénateurs, trois sénateurs sur chaque vote qui font défaut aux démocrates. Et alors, dans ce cas, eh bien, la majorité des textes de loi ne pourraient pas passer. Il faut rappeler que, pour l'instant, à l'heure où on se parle, il y a toujours la règle de la flibuste au Sénat, qui requiert sur une majorité des textes non budgétaires d'avoir une majorité de 60 sénateurs pour faire passer ces projets de loi. Et Sonia Dridi, qui a écrit un livre formidable sur ce sujet, Joe Biden va devoir jouer la carte centriste parce qu'au-delà d'unifier son camp, il lui faut aussi trouver des républicains pour faire passer ces textes de loi de façon idéale, au-delà de la barre des 60 sénateurs. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra faire avec 50, ce qui sera extrêmement compliqué. Et son agenda législatif ne pourra pas être aussi expansif.
Naturellement, je vous donne la parole, Sonia Dridi. Ça veut dire qu'il va gouverner au centre et il n'aura pas le choix.
Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Sofiane, c'est vrai que la minorité au Sénat a un rôle non négligeable avec cette possibilité de faire obstruction. Donc on imagine que sur certains sujets, notamment par exemple le contrôle des armes à feu, ce ne sera pas si facile pour les démocrates de faire adopter leur projet. Évidemment, Joe Biden, qui est connu pour être l'homme du compromis, qui a négocié avec les sénateurs républicains pendant des dizaines d'années, lorsqu'il était lui-même sénateur, eh bien, va continuer de négocier. D'ailleurs, ce matin, il a dit il semble que donc on aura un Sénat à majorité démocrate, mais je veux travailler avec les deux parties. Donc, ce qui est important, c'est que Joe Biden veut être, contrairement à Donald Trump qui joue sur les divisions, lui, il veut vraiment être l'homme de l'apaisement, de la réconciliation, même si on sait que cette dernière va être très difficile. Et donc, là, déjà, il commence déjà à faire des appels du pied aux républicains. Pour rebondir aussi sur le vote afro-américain dont parlait François, c'est très important aussi de mentionner Stacey Abrams parce que vraiment tous les démocrates aujourd'hui ne parlent que d'elle parce que c'est cette femme afro-américaine qui était candidate au poste de gouverneur en 2018 en Géorgie qui a perdu, mais qui depuis des années, et notamment ces dernières années, mais elle a fait un effort colossal depuis 2013 pour mobiliser les afro-américains dans cet État, et c'est vraiment extraordinaire, historique aujourd'hui ce qui se passe. D'ailleurs, Warnock sera le premier sénateur noir de Géorgie et il est difficile d'imaginer que la mobilisation des démocrates et notamment des noirs aurait été aussi importante s'il n'y avait pas tout ce travail de terrain fait par Stacey Abrams et les gens qui travaillent avec elle.
Ça rend encore plus amer, hein, sans doute, ce qui se passe en Géorgie, la défaite de Donald Trump. Je vais vous donner la parole dans un instant, Anne-Désine. Je voudrais vous montrer dans un instant ce qui vient de se passer à Washington avec cette déclaration de Donald Trump qui dit « Je ne lâcherai rien ».
Notre victoire à l'élection a été volée par des démocrates radicaux et volée par des médias fake news. C'est ce qu'ils font. Mais nous n'abandonnerons jamais. Nous ne concéderons jamais la victoire.
Il est déjà en campagne, vous nous disiez tout à l'heure. Ce qui se joue en Géorgie, c'est important pour Joe Biden, même si on a compris que ça va être compliqué malgré tout, qu'il va devoir composer. Oui. Mais ça lui donne quand même quelques leviers, selon vous.
Voilà, l'avenir n'est pas rose, c'est clair. Mais s'il n'y avait pas eu ce partage à 50-50, il ne pouvait rien faire. Rappelons-nous ce qui s'est passé au moment où certains des sénateurs étaient prêts à voter cette fameuse aide de 2 000 $. McConnell, le leader républicain, un des grands méchants de l'ère Trump et d'avant d'ailleurs, a refusé d'inscrire à l'ordre du jour, car c'est le parti qui a la majorité qui contrôle l'ordre du jour. Donc déjà, ça permettra, lorsque Biden et des sénateurs des deux camps réussissent à se mettre d'accord sur un projet, bien sûr, qui ne sera pas radical, hein, si c'est une hausse d'impôts pour les riches, il n'en est pas question. Mais par exemple, un plan d'infrastructure, un plan pour aider à sortir du Covid. On sait qu'il y a un certain nombre de républicains qui sont prêts à voter. Et là, il n'y aura pas ce blocage énorme du refus du leader républicain d'inscrire à l'ordre du jour. Et l'autre chose très importante, c'est que le parti majoritaire préside toutes les commissions et est majoritaire dans toutes les commissions. Donc, d'accord, ils peuvent faire avancer les projets de loi, ensuite les mettre à l'ordre du jour. Et on a bien vu, enfin moi j'ai trouvé assez réconfortant ce qui s'est passé sur le package de 900 milliards de dollars, c'est qu'il y a un certain nombre de démocrates et de républicains qui se sont dit, voilà, c'est Biden qui est élu, on sait que l'ambiance change, on commence à travailler avant même son investiture le 20. Ce n'est pas gagné, mais il y a des petites lueurs d'espoir.
Sonia Dridi, est-ce qu'il est gêné, Joe Biden, dans ses premiers pas par ce qui est en train de se passer et ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire un Donald Trump qui, encore une fois, devant le Capitole, dit « je n'ai pas perdu, on ne lâchera rien ».
Alors déjà, je voulais ajouter sur cette victoire, hein, a priori qui sera bientôt confirmée, si elle est confirmée, des démocrates au Sénat. C'est important pour Joe Biden dès maintenant parce que les nominations qu'il a faites des différents ministres, vont être facilitées. Il va pouvoir confirmer, ces nominations vont pouvoir être confirmées sans difficulté. Et ça, c'est quand même un point très important pour l'administration Biden. Oui. On parle depuis quelques heures du possible prochain ministre de la Justice qui pourrait être Merrick Garland. Et donc, on sait que cette nomination va être importante parce que notamment le fils de Joe Biden est impliqué dans des affaires judiciaires. Mais donc ça, vraiment, c'est une victoire, hein, pour Joe Biden. Alors, ce qui est intéressant, pour revenir à votre question, c'est que quand même, Joe Biden le fait peu de commentaires sur ce qui est en train de se passer. Depuis plusieurs jours, hein, même lorsqu'il a fait un meeting électoral en Géorgie, eh bien, il n'a pas parlé de cet appel assez hallucinant, hein, de Donald Trump. Lui avance. Il sait en effet, comme on l'a dit, qu'il va devoir composer avec les Républicains. Il sait que l'Amérique est extrêmement divisée, polarisée. C'est aussi pour ça qu'il ne veut pas remettre de l'huile sur le feu. Il ne s'attaque pas à Donald Trump. Il continue de dire qu'il veut, comme il l'a dit encore ce matin, qu'il veut travailler avec les Républicains parce qu'il ne veut pas encore plus se mettre à dos les pro-Trump. Il sait qu'ils sont extrêmement mobilisés, extrêmement remontés. Ouais. Et encore une fois, il tente vraiment d'apaiser le pays. Donc, c'est embêtant et il sait que ça sera très difficile de réconcilier l'Amérique. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que de voir, c'est que Joe Biden, finalement, continue d'avancer et fait très peu de commentaires sur l'actualité.
C'est vrai qu'il apparaît assez zen, mais en même temps, il sait que c'est un supplice qui va prendre fin le 20 janvier.
Oui,
non,
bien sûr.
Vous avez l'air d'en douter. C'est-à-dire qu'il ne va pas se débarrasser de Donald Trump comme ça. C'est ça, en fait, l'histoire.
Non, mais ce matin, il y avait un article qui essayait d'expliquer comment le Secret Service ferait pour escorter Donald Trump de la Maison-Blanche le 20 janvier.
C'est eux qui s'en chargeront ?
S'il refuse de partir, oui. Il sera considéré à ce moment-là comme n'importe quel citoyen qui n'a absolument aucun droit d'être dans la Maison-Blanche. Ils vont s'arranger pour que le personnel de la Maison-Blanche, d'ailleurs, qui quittera le 19 janvier au soir, ne revienne pas le 20 janvier au matin. Et donc, oui.
Il pourrait aller jusque-là ?
J'en sais rien, sincèrement. Mais On est obligé de penser à ça parce que ça fait partie du rituel, si vous voulez, du processus démocratique américain. Mais pour revenir plus sérieusement à la question, bien sûr que Joe Biden sera soulagé. Et en même temps, je crois que secrètement, il y a chez lui l'espoir de voir le camp de la droite en face se désunifier. On a assisté pendant 4 années à une grande alliance conservatrice autour du Tea Party, puis de Trump, puis des républicains qui se sont ralliés à lui uniquement par intérêt électoral. On voit aujourd'hui que ce parti, il est quand même cassé en deux. On le voit numériquement au Congrès, le nombre d'élus à la Chambre qui étaient prêts à décertifier les résultats, 100, chez les sénateurs, 10. Voilà le camp Trump qui reste. Et tous les autres, ce sont des républicains qui sont non seulement des soutiens du processus démocratique, mais qui sont pour certains prêts à collaborer avec l'équipe Biden. Donc je crois que son intérêt à lui, c'est de fonctionner sur cette division à droite, tout en, et c'est le plus important, on le verra peut-être dans d'autres émissions, mais tout en gardant son propre parti à lui unifié.
Ça va être un sujet.
Or, s'il est obligé de gouverner au centre, je pense qu'il y aura quand même un certain nombre de déçus
à gauche. Mais ça fera l'objet d'une autre émission. On va aller voir justement ceux qui restent les supporters de Donald Trump, parce que si Donald Trump va devoir d'une manière ou d'une autre quitter la Maison-Blanche le 20 janvier à midi, ses supporters, eux, comptent bien continuer à faire vivre l'héritage des élus du Colorado, vous allez le voir, reprennent d'ores et déjà le flambeau. Reportage sur place, Magali Lacroze et Pierre Dehorne.
La ferme de Dave, à flanc de montagne, est nichée au cœur d'une immense étendue désertique. Il y élève 150 bisons. Tous les matins, il parcourt son domaine, inspecte ses animaux.
On n'a pas l'impression comme ça, mais ils sont très rapides.
Loin, bien loin d'une nouvelle Amérique qu'il ne comprend pas et d'une élection présidentielle qu'il n'arrive toujours pas à digérer.
J'ai voté pour Trump. Je suis républicain.
Pour lui, ce n'est pas qu'une question de politique. C'est toute sa vie. Et son champion, c'est Donald Trump, parce qu'il s'identifie à lui.
On l'a créé nous-mêmes, cette ferme. Il n'y avait rien ici. Avant, il n'y avait que de la poussière et des mauvaises herbes. Et maintenant, on cultive la terre et on a un élevage. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'a fait Trump. Il a construit des choses. Il a engagé des gens, il les soutient. C'est ce que j'aime chez lui. Il veut qu'on réussisse par nous-mêmes, sans l'aide du gouvernement.
Sauf que le Colorado a voté démocrate à 55%. La fracture de l'Amérique, il l'assume presque paisiblement.
On ne va pas faire de compromis. Vous voyez la façon dont les démocrates ont traité Trump depuis 4 ans? Ils ne peuvent pas s'attendre à ce que les républicains coopèrent maintenant.
Que vont devenir les Trumpistes alors que Trump, lui-même, s'accroche au pouvoir? Au conseil d'administration de l'hôpital de Delta, Matt Spaucer vante les choix politiques de Trump, ceux-là même qui lui ont peut-être valu sa défaite.
Nous savons comment gérer la pandémie dans le Colorado. Si tout avait été centralisé à Washington, les réponses auraient été trop longues. On serait toujours en train d'attendre. Je crois que Trump a bien fait de nous laisser gérer. Lui, il s'est concentré sur l'opération de vaccination. C'est grâce à lui que le monde a maintenant au moins 3 vaccins différents.
À 5 heures de route de là, le sénateur du Colorado siège au Capitole de Denver, plusieurs jours par semaine. Comme au niveau national, les républicains ici sont en minorité et pour lui, tout est à faire.
C'est ici que commence le futur du Parti républicain, avec de jeunes élus comme moi qui vont apporter un souffle nouveau, dans le respect de l'héritage de Trump. Mais il faut revenir aux fondamentaux. Pour imposer les idées républicaines, il va falloir que l'on parle avec les démocrates. Et je crois que le futur du Parti républicain dépendra de ceux qui acceptent de s'ouvrir à l'autre camp.
Les rêves de conquête d'une partie de la jeune génération républicaine font débat. Surtout dans la sphère économique. Dans la banlieue de Denver, Polly Lawrence gère une entreprise de construction et 100 d'employés.
Tu travailles sur quel projet ?
Je suis en train de travailler sur la transmission, là.
Tous, garantit-elle, ont vu leur salaire augmenter de 3 à 5 % sous Trump. Elle craint que les choses ne changent. La future administration Biden ne lui inspire pas confiance.
Je ne suis pas certaine que Biden sache lui-même ce qu'il va faire économiquement. Je crois qu'il a été poussé, influencé par des acteurs en coulisses. Il a un historique de compromis dans sa vie politique. Il n'a jamais été quelqu'un qui prenait des risques. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de place pour quelqu'un de tiède.
Qu'il lui soit fidèle jusqu'au bout, ou déjà prêt pour la relève, dans le Colorado, les républicains sont déjà nostalgiques d'un président fort, à la parole très libre, qui a chamboulé le vieux parti conservateur.
Eux resteront fidèles.
Oui, mais vous noterez que ce ne sont pas non plus des violents, non, ni des extrémistes, ni des gens qui, voilà, qui sont capables d'aller revêtir le treillis pour s'entraîner aux armes le soir et revenir chez eux le matin. Je crois qu'il y a plusieurs électorats trumpistes. Vous avez des électorats trumpistes, finalement, j'allais dire presque modérés, c'est-à-dire des républicains qui ont suivi Trump parce qu'ils pensaient que, tout simplement que c'était le meilleur et parce que c'était le plus à même de changer les choses. Mmh. Vous en avez d'autres qui sont plus gravement nationalistes, souverainistes et suprémacistes, qui pensent qu'effectivement l'Amérique est en train de perdre son identité et son âme, et qui sont prêts pour ça à faire de la politique de façon extrêmement musclée. Et puis vous avez enfin tous ces courants conspirationnistes, complotistes, ouais, extrémistes, miliciens avec des armes à feu et qui sont prêts, eux, pour le coup, à aller faire le coup de force ici ou là, comme on l'avait vu dans le Michigan à un moment, pour intervenir dans
Ils
un Parlement local.
Ils ont été quand même plus calmes, ceux-là, qu'on l'avait imaginé auparavant.
Alors après, c'est une question peut-être aussi d'organisation, ouais, de financement, de coordination. L'Amérique est un immense pays et ce n'est pas si facile que ça. Ouais. On l'a vu même avec le Tea Party. Ça a mis beaucoup de temps avant que, ouais, le Tea Party ne se réunifie et devienne une vraie force politique. Ce sera la même chose pour le trumpisme. Et c'est pour ça que ça pose la question de savoir si Trump sera capable, sans être président, de continuer à unifier ce courant, ouais, ultra-conservateur.
Sofiane Al-Sabag, cette question, Trump ne va-t-il pas créer un nouveau parti? Il risque de se retrouver un peu dans une situation compliquée avec une partie des républicains qui vont co-gérer avec les démocrates.
Du fait des règles électorales aux États-Unis qui dictent le système de bipartisan, en fait, c'est très très difficile de faire émerger un parti tiers. Et au fond, le calcul le plus rationnel pour Trump, maintenant qu'il a déjà fait tant de travail depuis 4 ans, ce serait tout simplement de prendre le pouvoir encore plus de manière permanente au sein du Parti républicain. D'accord. Et on voit qu'il y a vraiment la place pour le faire, puisque les électeurs républicains traditionnels sont très clairement minoritaires par rapport aux trumpistes. Ça n'est pas encore reflété au niveau des élus, puisqu'on a vu, encore une fois, au niveau de la certification, que les républicains traditionnels seront majoritaires, mais avec le temps, ça va changer. J'en veux pour preuve le Colorado, qui a élu une représentante, Lauren Boebert, qui est totalement trumpiste, totalement acquise à la cause de Trump, qui est jeune et qui va rester sur le long terme. Donc la question, c'est vraiment dans 10 ans, si Trump a cette ambition de vraiment prendre le Parti républicain, est-ce qu'il est capable de garder cette influence? Et a priori, sur le papier, eh bien, il a vraiment ses chances. Et on voit que les sénateurs républicains, qui sont même parmi les plus diplômés, parmi les plus sachants qui existent à Washington, notamment Tom Cotton, notamment Josh Hawley, qui rejoignent sa cause, ces sénateurs savent que le trumpiste a une base idéologique qui est plus puissante, en principe, que le socle traditionnel de valeurs et l'idéologie historique du Parti républicain.
Il n'y a personne en interne au sein du Parti républicain qui a témoigné des velléités de s'imposer, en tout cas de se compter parmi le Parti républicain, Sofiane Al-Sabag?
A priori, il est toujours minoritaire au sein des instances du Parti républicain, mais néanmoins, il a renominé Ronna McDaniel Romney, qui était le président depuis 5 ans. Il lui a apporté son soutien. Cette personne roule très clairement pour Trump. Et encore une fois, avec le temps, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, eh bien, il a très largement le temps de faire toutes ces connexions nécessaires, de bâtir un réseau et de vraiment prendre possession de l'architecture du Parti républicain en tant qu'institution.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Un coup d'État de Trump soutenu par l'armée est-il un scénario plausible où les Américains jouent-ils à se faire peur, Anne Desine?
Ce qui est ahurissant, c'est qu'on pose la question.
Oui, c'est pas faux.
Voilà. C'est-à-dire, a priori, ça ne se produira pas, mais le fait qu'on pose la question, qu'il y ait un éditorial des ministres de la Défense, des articles sur le site The Conversation, qui dissèquent un petit peu ce qui serait possible de faire, c'est ça qui est ahurissant et qui montre combien il y a eu une détérioration des normes aux États-Unis à cause de Trump.
N'est-ce pas Donald Trump qui est pris en flagrant délit de triche avec son coup de fil, François Clémenceau?
de tentative, en tout cas, de triche, mais c'est surtout le fait de laisser s'installer le doute. En fait, quand il tient son discours tout à l'heure devant ses troupes, en disant « nous n'abandonnons jamais et nous ne reconnaissons pas cette victoire », c'est pour continuer à instiller au sein de cet électorat le fait que Joe Biden est illégitime. Et c'est une façon de se venger de certains démocrates qui avaient considéré à l'époque qu'il l'était lui-même. Et donc, j'allais dire, c'est un peu le retour à l'envoyeur, sauf que ça prend une dimension beaucoup plus importante cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que Trump a fait plus de voix en 2020 qu'en 2016. Il a cette sorte de légitimité qui ne lui donne pas de rester à la présidence, mais qui lui donne une popularité plus grande encore que celle qu'il avait en 2016. Et donc, à partir de là, il se dit « je peux construire ». Et comment construire ? En laissant croire que celui qui est en face de moi ne mérite pas d'être là où il est. Et c'est là-dessus, finalement, qu'il peut espérer, comme on l'a dit tout à l'heure, rallier autour de lui tous ceux qui pensent que cette élection, elle n'a peut-être pas été massivement fraudée, mais elle n'a pas été parfaite et elle n'a pas été d'une très, très grande transparence, même si, encore une fois, et c'est ça qui est très impressionnant dans le fonctionnement des institutions, la plupart des officiels qui ont certifié les résultats des élections dans les États républicains sont des républicains, et pour la plupart, trumpistes. Il ne faut jamais l'oublier.
Que pensent les Américains républicains non-trumpistes du comportement de Trump ? Voteront-ils encore républicains ? Sofiane Al-Sabag.
Ça, il va falloir attendre, je crois, les primaires de 2024 qui encore vont arriver très très vite pour répondre à cette question, puisque effectivement, la question est très très simple. Est-ce que Trump est allé assez loin dans la destruction de la démocratie pour convaincre ces républicains plutôt modérés, plutôt centristes, qu'au fond, la marque du parti républicain n'est plus la bonne et qu'il vaut mieux voter démocrate que voter républicain. On a vu une sorte de pré-mouvement vraiment se dessiner avec beaucoup de républicains traditionnels qui ont soutenu Joe Biden pour l'élection de 2020. Il n'est vraiment pas sûr que cela continue puisque, encore une fois, en 2024, Joe Biden aura un bilan. Il aura pris des actions très clairement plutôt progressistes et à ce moment-là, il y aura un rééquilibrage idéologique entre les deux camps où on pourrait voir un certain nombre de républicains, si jamais un centriste émergeait d'une façon assez surprenante de la primaire, eh bien retourner vers le camp du parti de l'éléphant. Mais il est vraiment encore trop tôt pour le dire.
Trump va-t-il finir seul, complètement isolé, lâché même par son vice-président ? C'est Raymond dans les Alpes de Haute-Provence, Sonia Dridi, qui vous pose cette question.
Alors, je ne pense pas qu'il va finir seul, parce que comme on l'a répété et souligné, il a une popularité immense dans ce pays. Il a vraiment transformé le parti républicain et on le voit lorsqu'il ne fait pas massivement campagne pour des républicains, comme c'était le cas en Géorgie. Eh bien, la mobilisation est plus faible. Par contre, je pense au contraire qu'il va annoncer éventuellement une candidature en 2024, qu'il va continuer à faire de la politique. Qu'il va y avoir une véritable scission dans le parti républicain, comme on l'a dit un peu plus tôt. Mais Trump isolé, pour l'instant, je ne vois pas ce scénario. Ce que je trouve très inquiétant et qui vraiment m'interpelle ici, c'est de voir à quel point la société est extrêmement polarisée. Je rencontre de plus en plus de familles qui sont complètement divisées, des frères et sœurs, des couples, et de voir à quel point les théories du complot s'installent dans le pays et à quel point elles sont vraiment beaucoup de pro-Trump et de gens, on l'a dit, hein, qui viennent de différents coins, qui ont des origines sociales différentes, qui ne sont pas violents, eh bien croient dur comme fer à ces théories du complot. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer en Amérique. Et là, ça, je trouve cela plutôt très inquiétant.
Cette question pour vous, Anne Desine. Tout est-il vraiment à jeter dans le trumpisme ?
Non, il y a eu des succès et quelque part, le fait de donner des coups de pied dans la fourmilière, au début, c'était une bonne idée parce que la politique était sclérosée, cette fameuse érosion des normes avait commencé et Hillary Clinton, certes, aurait été la première femme présidente, mais était loin d'être blanche. Elle avait beaucoup de casseroles et la culture de la corruption chez les Clinton était quand même très présente. Donc, il y a eu ça. Simplement, il ne s'est pas contenté de prendre des mesures bizarres. À la limite, même sur Israël, on peut se dire qu'un œil nouveau, c'est pas pire que ça ne l'était. Au moins, le dossier a bougé. Mais ce qui est grave et ce qui va durer, c'est vraiment comment il s'est attaqué aux institutions.
Il les a fragilisées.
Ah oui. Là, on en est à se réjouir que les institutions ont tenu. C'est-à-dire que grâce au dévouement de tous ces responsables électoraux, les élections se sont bien passées. Mais ça aurait pu être terrible parce que les Républicains ont refusé d'envoyer de l'argent dans les États. Donc les États ont été obligés de recruter, de faire du vote par correspondance avec zéro ressource, enfin le dixième de ce dont ils auraient eu besoin. Et donc, il y a ce vrai problème.
Vous voulez dire un mot, François Clémenceau ?
Oui, non, juste pour dire que s'il n'y avait pas eu la pandémie, je pense que les choses auraient quand même tourné différemment. Oui. Je pense que, à la fois, sa propre gestion de la pandémie et le fait que Biden ait choisi de jouer la carte de la prudence, de la rassurance, et surtout de dire aux Américains, ne prenez pas de risques inutiles, j'allais dire, l'économie ne passe pas avant la santé. Je crois que ce message-là est central, et on le voit dans les sondages sortis des urnes en Géorgie, soit 53% des électeurs qui ont voté hier en Géorgie disent, je pense que la santé passe avant l'économie. Et mine de rien, ça a quand même beaucoup changé les choses.
L'économie était florissante, on en a suffisamment parlé sur ce plateau avant l'épidémie de Covid. Où est passée Ivanka Trump ? Est-elle en train de désavouer son père ? Ou prépare-t-elle le terrain pour 2024 ? François Clémenceau.
Beaucoup lui prêtent des intentions de politique. C'est vrai qu'elle serait tentée par un poste de sénateur, c'est ce qui se raconte. Mais encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour en parler, même si, comme l'a rappelé Sofiane, les primaires de 2024 vont commencer théoriquement en 2023, mais dès les élections de mid-term de 2022, il y aura des choses qui se passeront dans ce pays. On le voit à chaque élection de mi-mandat, on a tendance à les sous-estimer, elles apportent à chaque fois un véritable tournant politique.
Les langues des Républicains vont-elles se délier après le départ de Trump ? Elles se sont déjà déliées, il y a eu beaucoup de livres, de publications sur le mandat de Trump, il y en aura peut-être d'autres, il y aura peut-être le sien, il publiera peut-être ses mémoires de président. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. N'oubliez pas que vous pouvez écouter et réécoutez C'est dans l'air gratuitement sur toutes les plateformes en podcast. Belle soirée à vous. Tout de suite, c'est à vous.